Europe 1.
Chaque année en France, plus de 300 enfants sont enlevés brutalement par l'un de leurs parents. Des enfants utilisés comme des instruments pour faire souffrir l'autre. Qu'il dure quelques jours ou plusieurs années, cet enlèvement fait basculer la vie de ceux qui en sont victimes. Des enfants d'abord arrachés à leur famille, leur pays, leur culture, mais aussi tous ceux qui restent et qui se battent chaque jour pour les retrouver. Comment continuer à vivre pour récupérer l'être qui nous est le plus cher? Comment les enfants peuvent-ils grandir et se construire sur cette déchirure? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Mathilde. Pour retrouver sa fille Pénélope, enlevée par son père, elle s'est installée en Grèce pendant deux longues années. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus.
C'est dans la région lyonnaise que je vais rencontrer Mathilde et sa fille Pénélope, qui a été enlevée par son père à l'âge de 2 ans.
Bonjour Olivier.
Bonjour Mathilde, comment ça va?
Ça va, merci.
Vous? Bien.
Bienvenue chez nous.
Bonjour Pénélope. Tu me fais un bisou? Je t'en fais un deuxième. Moi.
Tu veux montrer Pénélope ta chambre à Olivier?
Ouais.
Allez.
Mathilde m'a prévenu que Pénélope, qui n'ignore rien de ce qu'elle a vécu, tient à me montrer des albums de photos que sa maman lui a fabriqués et qui retracent son histoire.
C'est qui ça?
Tout ému, ma maman.
Tout ému, ta maman? Et pourquoi ouais. Tout ému?
Parce que m'a trouvé.
Parce qu'elle t'a trouvé?
Oui.
Et pourquoi tu étais où alors, toi?
J'ai caché mon papa.
Ah, ton papa, il t'avait caché?
Oui. Regarde. En colère à ma maman.
Pourquoi?
Colère.
Pourquoi en colère?
Parce que j'ai pas trouvé mon roi.
Elle t'a pas trouvé?
Non.
Parce qu'elle te cherchait?
Oui.
D'accord. Papa, il avait fait une bêtise?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il avait fait?
Il est puni.
Pourquoi il est puni?
Que grosse bêtise.
Il t'a téléphoné, papa, depuis ou pas?
Non. Jamais.
Jamais? Et ça te manque un peu?
Oui.
Tu ranges bien tes affaires, toi. Hein. T'es bien ordonné. Hein. C'est bien.
Pénélope a 9 ans. Elle souffre d'une maladie génétique qui entraîne un retard intellectuel et moteur. Cette maladie, diagnostiquée vers l'âge de 6 mois, a été à l'origine de graves désaccords entre sa mère et son père, un jeune homme grec étudiant à Paris. Ce bébé est un véritable cadeau pour Mathilde, qui à cette époque est très amoureuse de ce jeune homme parfait.
C'était quelqu'un qui était plein de ressources, c'était quelqu'un qui savait faire énormément de choses. Il savait cuisiner, il savait coudre, il savait faire de la mécanique, il était sportif, il était attentionné,
il était
fascinant, il était très beau. Il était très beau, moi j'étais très fière d'être au bras d'un homme comme lui. Il était tellement charmant, tellement attentionné que j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Je me suis complètement laissée embobiner.
Qu'est-ce que vous n'auriez pas dû accepter dès le début?
Très rapidement, j'aurais dû comprendre que ce que moi je prenais pour des malentendus liés à notre différence de culture, notre différence de langue aussi, puisqu'il était grec, donc le français était une langue étrangère pour lui. En fait, ces malentendus n'étaient pas des malentendus, c'était déjà, je pense, les prémices de son impossibilité à avoir un autre point de vue que le sien. À titre d'exemple, quand Pénélope est née, ma famille et ma grand-mère, par exemple, n'a pas eu le droit de porter Pénélope dans ses bras jusqu'à ce que Pénélope ait 1 an.
Et pourquoi?
Parce qu'ils considéraient que ça ne se faisait pas, que c'était sale, que les gens avaient des microbes, qu'il ne fallait pas. Il avait décidé que non, et c'était comme ça, et puis c'est tout. Et moi, j'obéissais, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça que ça se passait.
J'obéissais.
Ah mais oui.
Lorsque vers l'âge de 6 mois, les premiers signes de la maladie de Pénélope apparaissent, les choses se compliquent entre les deux parents.
Il n'a jamais pu accepter que Pénélope souffrait d'une maladie génétique. C'était quelque chose d'inentendable pour lui. En fait, bien avant même l'enlèvement, Kyrios avait menacé d'enlever Pénélope. Il avait à plusieurs reprises montré que Pénélope, c'était OK son enfant, mais surtout son objet, qu'elle était une image de lui. Et en cela, le handicap lui renvoyait quelque chose d'insupportable. Quand le médecin a commencé à évoquer cette nécessité d'aller voir plus loin, puis de faire des bilans, là, Kyrios s'est montré très agressif. Et tout de suite, elle a dit non, mais c'est hors de question, moi, ma fille, elle n'est pas handicapée. Et c'est vraiment ça, on est vraiment dans de l'orgueil.
Donc, dans ce déni total.
Oui. Et à ce moment-là, c'est vraiment là que nos chemins ont commencé à se séparer et que moi, j'ai pu prendre de la distance. Et je savais que c'était à moi de prendre les décisions sur le médical, que je ne pouvais pas, là-dessus, permettre à Kyrios de prendre la main complètement.
Mathilde et son compagnon ne sont pas mariés. La jeune femme demande à un juge des affaires familiales de statuer sur la garde de l'enfant. Le jugement est rendu fin 2006.
Selon eux, il valait mieux pour Pénélope qu'elle soit avec moi et que selon eux, son père n'était pas en capacité de mettre en place tout ce dont elle avait besoin. Il est écrit noir sur blanc, à la fois le déni du handicap, à la fois tout le dénigrement à mon égard. Mais la justice rendait des décisions qui n'allaient pas dans le sens de ce qu'il souhaitait, lui. C'est justement parce que le père de Pénélope a eu à plusieurs reprises des décisions qui ont été à l'encontre de ce qu'il demandait lui, je pense qu'au fur et à mesure du temps, il a pu faire son projet de l'enlever et de partir. Et là, c'est Pénélope qui a trinqué. Là, c'est clair, Pénélope, ça a été son objet préféré pour me faire du mal.
Aujourd'hui, même 7 ans après, Mathilde vit toujours dans la peur d'un nouvel enlèvement.
Alors, j'appelle juste le centre de loisirs.
Pourquoi en fait ?
Pour leur confirmer que c'est mes parents qui viendront. 13, 32. Moi, je veux rien laisser au hasard. Et je tiens à ce que tout le monde soit au courant. Les animateurs du centre de loisirs, ils doivent être au courant de l'enlèvement. Tous les éducateurs qui sont au quotidien auprès de Pénélope, ils doivent être au courant de l'enlèvement. Ça fait partie des choses auxquelles on pense au quotidien. Ouais. Je ne vais pas demander à Pénélope d'aller chercher du pain à la boulangerie. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un pourrait être au coin de la rue. Mmh. Oui, bonjour Marie-France, c'est la maman de Pénélope. Je vous appelle parce que je vais avoir un petit contretemps. Je ne suis pas sûre que ce soit moi qui récupérerai Pénélope, ça sera peut-être mon père. Ok, donc c'était pour vous prévenir. Bon, ça marche. Eh ben merci, bonne fin de journée. Au revoir. Hop, et voilà, ça c'est fait, on peut continuer.
Allez, on va à Lyon-Perrache.
Cette gare est chargée de souvenirs pour Mathilde. C'est là qu'elle a confié Pénélope à son père pour un week-end de garde qui devait être comme les autres.
Pour la première fois, il semble être dans un esprit de conciliation. Au moment où moi, j'allais repartir, alors qu'il avait Pénélope dans les bras, il me dit « tu devrais lui faire un bisou ».
Parce que jusque-là, vous n'aviez pas le droit de l'embrasser.
Voilà. Jusque-là, à partir du moment où Pénélope était dans ses bras, je n'avais plus accès à elle et elle n'avait plus accès à moi. C'est-à-dire que même si elle tendait les bras et qu'elle souhaitait me faire un bisou ou un câlin ou repasser une dernière fois dans mes bras, c'était interdit par son père. Mmh. Et à ce moment-là, bien sûr, je n'ai pas compris que c'était une manière de me dire « fais-lui un bisou, tu la reverras jamais, ta fille ». Puis le dimanche soir, d'ordinaire, le père de Pénélope m'envoyait un message pour me dire à quelle heure il arrivait à la gare. Il y avait en gros 2 trains qu'il pouvait prendre. Ce jour-là, il ne m'envoie pas de SMS pour m'indiquer à quelle heure il revient. Tout de suite, ça me met en alerte. Je me dis, tiens, ça, c'est pas normal. Et puis bon, je me rends quand même à la gare à l'heure habituelle. Je crois que c'était 19h15, personne, rien, bon. Son téléphone était éteint. Et puis j'attends jusqu'au train suivant, 19h45, et là, il n'arrive pas. Et là, par contre, j'ai compris immédiatement.
Tout de suite.
Pour moi, il l'avait enlevé, ça c'était clair. Ouais. Par contre, à ce moment-là, je n'ai pas du tout imaginé qu'il avait pu l'enlever en réalité 2 jours auparavant. Donc ouais. On avait déjà 48 heures de retard sur son départ. Je n'ai pas du tout imaginé qu'il avait tout organisé, tout fomenté. Pas du tout.
Mathilde porte plainte le soir même. Elle pense naturellement que la police et la justice vont rapidement retrouver la fillette. Or, 9 mois s'écoulent et rien ne bouge. Mathilde comprend qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Elle abandonne alors tout pour s'installer en Grèce, apprendre la langue et se mettre à la recherche de Pénélope. Ici, à Athènes, Mathilde est seule. Elle ne sait pas exactement où chercher et surtout se heurte à l'indifférence générale.
Je pense que foncièrement, le fait que ce soit son père qui l'ait enlevé a joué en ma défaveur. Il m'était tout le temps répondu, mais enfin madame, mais arrêtez de vous inquiéter, elle est pas maltraitée votre petite, elle est avec son père. Et puis chez les policiers, je sentais vraiment une espèce de solidarité entre hommes. Mais c'est qui cette femme, de surcroît une étrangère, qui veut récupérer son enfant? Son père, c'est un grec, il va s'en occuper, c'est un homme, il est comme nous.
Ça, vous l'avez ressenti ou ça vous a été dit clairement
Ah, mais ça m'a été dit clairement très, très souvent. Dans le milieu de la justice, dans le milieu de la police, dans le milieu des ministères aussi.
Il vous est arrivé de vous dire à Athènes, dans ces moments où vous n'avanciez pas, de vous dire « je ne la retrouverai peut-être jamais ».
Bien sûr.
Ouais.
Ah ben bien sûr, il m'est arrivé de me dire « je ne la retrouverai jamais », il m'est arrivé de me dire « j'arriverai pas à vivre ». Et puis j'avais rencontré d'autres parents qui n'avaient pas retrouvé leur enfant et qui m'avaient très clairement dit « prépare-toi Mathilde, peut-être que tu la reverras jamais ». Donc ça c'était... c'était pas du tout gagné. Hein. C'était ça qui nourrissait mon désespoir aussi. C'était vraiment, vraiment le vide. Est-ce que je vais vivre avec elle? Est-ce qu'elle vit? Est-ce que je vais réussir à vivre sans elle? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre sans elle? Comment... Et puis je pensais déjà à cette époque-là à la vieille dame que je serais devenue plus tard et qui peut-être retrouverait sa fille adulte ou qui se retournerait sur sa vie en disant « mais cet enfant-là, je ne l'ai jamais retrouvé ».
Pour combattre son désespoir, Mathilde tient un journal quotidien dans lequel elle écrit des lettres à Pénélope. Des lettres qu'elle n'envoie pas, bien sûr, mais qu'elle publie sur Internet, qui lui donne la force, à elle et aux siens, de continuer à y croire.
Pénélope, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, et surtout, n'oublie pas, je viendrai te chercher. Je viendrai parce que les mamans reviennent toujours. Toujours.
Face à l'inaction des autorités grecques, Mathilde décide de faire appel aux médias. C'est ici, chez Angélique Kourounis, qu'elle va jouer sa dernière carte. Angélique est une journaliste franco-grecque. À plusieurs reprises, elle a traité des affaires d'enlèvement parentaux. C'est la première fois que Mathilde revoit ceux qui l'ont aidée à retrouver sa fille, il y a 5 ans.
Oh, bonjour, bonjour.
Ça va?
Salut, Angélique.
Angélique et Thomas sont journalistes. Ils connaissent bien la mentalité grecque et les rouages de la justice locale. Sans leur aide, rien n'aurait été possible.
Comment se fait-il que vous ayez été amené à traiter ce genre d'affaires?
Parce que c'est des affaires qui sont récurrentes. Donc des couples mixtes avec l'un ou l'autre qui s'en va avec l'enfant. Moi, j'en ai eu 4 déjà ici. Et la seule qui a retrouvé son enfant, c'est Mathilde. Mais Mathilde, c'est la seule qui était venue, qui s'est installée. Mmh. Il était clair qu'elle ne partirait pas sans la gamine. Elle avait 2 atouts. La gamine qui était handicapée.
Ouais.
Ça touchait tous les Grecs.
Il fallait toucher les Grecs pour en tout cas les faire balancer de votre côté.
Et puis, Mathilde. L'apparence de Mathilde. En fait, pour moi, le moment déterminant, c'était quand on a filmé Mathilde, après qu'on eut épuisé toutes les conférences de presse, les dossiers de presse, les plateaux de télévision,
les sujets dans les télés, dans les journaux,
les conférences de presse. Partout où on allait, j'avais une conférence de presse avec les ministres des Affaires étrangères. Hop, je prenais Mathilde avec moi et je la poussais devant la ministre. Elle donnait son fameux dossier bleu. Et après, on a dit, bon, on va passer la vitesse au-dessus, on va faire du porte-à-porte. C'est-à-dire de retourner là où elle vivait, avec cette fameuse robe blanche, ses sandales de Madonna, et faire du porte-à-porte.
On est à la limite de l'opération de com.
Ah bah complètement.
On était plein dedans.
Avec l'aide de ces 2 journalistes, Mathilde multiplie les actions et les coups d'éclat. Comme ce jour d'août 2009, où elle organise en public l'anniversaire de sa fille, malgré son absence.
Aujourd'hui, c'est le 4 août 2009, c'est la fête des 4 ans de Pénélope. J'ai décidé pour ses 4 ans de lui dire où qu'elle soit, que je suis là, que sa maman est là, que je n'ai pas oublié qu'elle était là, quelque part, cachée, dans ce quartier, dans la commune, dans la région, en Grèce, je ne sais pas exactement où, mais en tout cas, je suis là pour elle. Et je veux que tous les gens, que le maximum de gens ici, sachent ce qui se passe pour Pénélope,
sache que Pénélope a vraiment des difficultés, a vraiment besoin de soins, a vraiment besoin d'un matériel orthopédique adapté, qu'elle ne l'a pas. La télé grecque est venue et les gens ici ont très très bien réagi. Les gens se sont arrêtés, ont pris le temps de discuter, ont pris le temps vraiment de poser des questions, de regarder des photos de Pénélope. Ils ont compris que Pénélope était vraiment une petite fille, au-delà d'un numéro de dossier, au-delà d'une affiche de Ramon Yolokopédio. Et ça, vraiment, j'en suis très contente.
Vous avez des éléments qui vous font croire quelque chose, votre enfant, vous avez des nouvelles?
Alors, j'ai pas de nouvelles précises de Pénélope. Par contre, plus je parle avec les gens, plus je me rends compte qu'il y a des gens qui savent. J'espère vraiment que les appels répétés à la population porteront leurs fruits et que les gens comprendront qu'ils peuvent appeler le sourire de l'enfant de manière anonyme, qu'ils peuvent appeler le numéro européen 116 000 de manière anonyme. C'est vraiment très important.
Cette mobilisation va finir par payer. Sous la pression des médias puis des politiques, la police est obligée de bouger et convoque enfin le père de Pénélope. Le 14 septembre 2009, l'homme arrive au commissariat avec la petite fille, sans savoir que Mathilde est là pour la récupérer.
Tu étais invitée à aller dans un bureau avec donc le policier que je connaissais déjà, le policier grec qui s'occupait de l'affaire. Et nous avons échangé sur ce qu'il convenait de faire à ce moment-là.
Il était question que vous récupériez votre enfant à ce moment-là, vous le saviez.
Oui. Alors, à ce rendez-vous, il faut vraiment imaginer que dans le bureau, je n'étais pas seule. Hein. Il y avait mon avocate, il y avait le policier de l'ambassade, il y avait la traductrice de l'ambassade, il y avait la personne de l'association du sourire de l'enfant. Dans les couloirs, il y avait tous les journalistes. Je dirais que si j'ai douté jusqu'au moment de ce rendez-vous dans le bureau, à partir du moment où on était dans le bureau, j'ai plus douté que j'allais la récupérer.
Donc, comment se sont fait ces retrouvailles? Parce que vous avez dû les appréhender, ces retrouvailles. C'était une petite fille que vous n'aviez pas eue dans vos bras depuis 2 ans.
Je crois que j'ai pas pris conscience tout de suite du fait que je la connaissais pas. C'est venu en quelques heures, ça s'est venu. Mais au moment où on était encore au commissariat, j'avais pas encore compris ça. Ce que je me disais à ce moment-là, c'est que j'étais une étrangère pour elle. Donc j'essayais d'être très calme, très douce, de tout lui expliquer où on allait aller, qui j'étais. Je lui ai redit plusieurs fois que j'étais sa maman.
Vous avez eu l'impression qu'elle vous comprenait?
Je ne pouvais pas dire si elle me comprenait. En tout cas, je pense qu'elle a très vite perçu que mes intentions étaient bienveillantes à son égard, puisque en quelques heures, je me suis installée comme sa référence. Elle était tout le temps avec moi, elle me regardait énormément, elle me fixait en permanence. Ouais. J'avais vraiment l'impression qu'elle cherchait dans mon regard à s'agripper, elle aussi, pour tenir.
Ça s'assurait, sans doute.
Ah, oui. Je pense que ça a été très difficile pour elle. Très, très difficile. En plus, moi, je savais pas ce qu'elle mangeait, je savais pas à quelle heure elle se couchait. Je savais pas avec quel rituel elle se couchait. Je savais qu'elle avait une sucette, mais c'est tout. Je savais pas si elle s'endormait avec de la lumière, pas de la lumière. Des trucs toutes bêtes, mais qui sont hyper importants pour un enfant.
C'était une grande fille que vous récupériez là.
Oui.
Le 17 septembre 2009, Mathilde rentre enfin en France avec Pénélope, âgée de 4 ans. Mais les conditions dans lesquelles a vécu la petite fille pendant ces 2 années restent pour elle un mystère. Aujourd'hui, cela fait presque 6 ans que la petite vit à Lyon avec sa maman. Depuis, elle a appris le français, elle a des copains à l'école. C'est une petite fille douce et gaie. Cet après-midi, nous allons rendre visite à Jean-Luc et Anne-Marie, les parents de Mathilde. Lucie, la petite sœur de Mathilde, est là, elle aussi. La famille est réunie autour de Pénélope. Un bonheur qu'il savoure à sa juste valeur.
Comment est-ce que vous avez vécu cet enlèvement, vous, en tant que grand-parent?
Très mal. Plus que très mal. Hein. Nous, on était effondrés, donc ça a été une grande souffrance. Et puis, bon, de ne plus voir notre puce, là...
C'est pire que mal, quoi. Donc, il fallait qu'on vive. On ne pouvait pas... C'était toujours présent. Hein. C'était tout le temps présent. Ouais. En famille, à Noël, je ne vous dis pas. À Noël... Noël 2007 et Noël 2008, quoi. Ouais. Elle a été retrouvée qu'en septembre 2009, hein, pas.
C'était le plus beau Noël de notre vie. Avec Pénélope qui devait avoir à peu près 90 000 cadeaux, je pense.
Ah, mais décembre 2009, ouais. On a récupéré un peu de retard.
Aujourd'hui, vous restez encore choqué de tout ce qui vous est arrivé?
Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai toujours peur qu'il réapparaisse. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que je ne crois pas qu'il ait progressé beaucoup et qu'il se sente coupable de quoi que ce soit.
Hein. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, sincèrement, c'est qu'il est complètement impuni. Il a, normalement, il doit 35 000 euros à Mathilde d'un côté, il doit faire un an de prison. Hein. On le laisse, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on lui tape sur les doigts, quoi. Je ne veux pas qu'il aille en prison un an, quoi.
Et pourquoi pas? Ça lui ferait du bien.
Mais je pense que par rapport à sa personnalité, que déjà on le prenne comme ça, on le tape sur les doigts, rien que 8 jours en disant « vous avez fait le con », qu'il comprenne, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris.
Mais si aujourd'hui on a cette charmante petite fille qui est là au bout de cette table, c'est que vous avez, vous en tant que grands-parents, en tant que frères et sœurs, surtout des sœurs d'ailleurs, vous avez contribué à ce que Pénélope revienne ici?
Moi j'en ai conscience dans ce que Mathilde nous dit. C'est évident qu'elle n'aurait jamais retrouvé Pénélope si on n'avait pas été là. Mm-hmm. Nous à notre niveau on ne pouvait pas faire beaucoup plus que de dire à Mathilde, il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi qui peux trouver la ténacité.
Mm-hmm. Elle l'a fait, mais elle n'aurait pas pu le faire sans...
Ah oui, je pense
que votre soutien financier d'abord.
Ça compte.
Combien ça a coûté ça, tout ça? Si on fait
l'avocat, les voyages, l'ordinateur,
si on fait
location,
le compte de tout ça.
L'avocat qu'on paye encore.
L'avocat qu'on paye encore.
C'est pas fini. Hein,
c'est pas fini. Ouais.
Mais on en est à peu près à combien?
On en est au moins à 40 000 euros.
40 ou 50 000.
Sachant qu'elle a perdu un an de salaire parce qu'elle a pris une disponibilité. Hein. Donc en quelque part. Et puis la famille, les amis. En gros, je crois que c'est dans les 15 000 euros, les amis qu'ils ont donnés. C'est quand même pas négligeable, quoi.
Ça veut dire que si vous aviez dit « non, on ne paye pas »,
si on n'a pas de fric...
Si on n'avait pas eu d'argent...
Je pense qu'il y a un problème financier qui est évident, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune aide. S'il n'y avait pas eu ces gens, même avec la meilleure volonté, je ne sais pas si vraiment on aurait abouti. Hein.
Malgré le bonheur retrouvé, je sens que pour cette famille, la peur de l'enlèvement persiste. Le père de Pénélope a téléphoné régulièrement à sa fille pendant l'année qui a suivi son retour en France. Depuis, plus de nouvelles.
De retour en France.
Est-ce qu'il a arrêté d'appeler parce qu'il a senti qu'il n'avait plus d'emprise? Est-ce qu'il a arrêté d'appeler parce qu'il s'est résigné? Est-ce qu'il a pris aussi la décision radicale, de la même manière qu'il avait pris la décision radicale d'enlever sa fille, de dire « cet enfant-là, ça n'est plus la mienne ». J'en veux plus, je veux plus. Moi, je le vois tout à fait aussi comme ça, hein, dire à sa famille, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on prononce son prénom, je n'ai plus d'enfant, je n'ai jamais eu d'enfant et c'est terminé. Il peut aussi avoir fait ça. De la même manière que je n'ai, 5 ans après, toujours pas compris pourquoi il l'avait enlevé, ben, je n'ai pas plus compris pourquoi il ne prend plus de nouvelles. Pénélope, c'est vraiment une petite fille de valeur qui est hyper persévérante, hyper courageuse dans son quotidien, dans ce qu'elle traverse. Elle en a gros sur le cœur de ne pas voir son père. Et en même temps, demain, si son père a envie de l'appeler, il a complètement... On sait où on habite, on sait notre numéro de téléphone. On n'est pas... On ne vit pas caché.
Je trouve que l'attitude de Mathilde force le respect. Malgré les souffrances endurées et une confiance brisée, Mathilde reste avant tout une maman qui sait que le bonheur de Pénélope passe aussi par un lien avec son père. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation Mathias Helena. Diffusion Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.